Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
بسم الله وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ سلام هي حتى مطلع الفجر ورق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le dimanche 15 Aban, 1401 du calendrier iranien, 6 novembre 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Le corps des gardiens de la révolution islamique lance avec succès le transporteur suborbital à combustible solide KM-100. Lancement avec succès du transporteur suborbital à combustible solide KM-100 en Iran. La réunion du groupe des Amis pour la défense de la Charte des Nations Unies a commencé ses travaux à Téhéran. Et Washington fournit une aide militaire d'une valeur de 400 millions de dollars à l'Ukraine. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. La force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique lance avec succès le transporteur suborbital à 3 étages KM-100 à combustible solide. KM-100, le premier du genre fabriqué par les scientifiques iraniens, est capable de mettre en orbite des satellites pesant jusqu'à 80 kg à 500 km de la surface de la Terre. Le commentaire politique d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. La première réunion du groupe des Amis pour la défense de la Charte des Nations Unies au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères s'est tenue le 5 novembre à Téhéran. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, les ambassadeurs et ministres de plusieurs pays membres de ce groupe participent à la réunion. Le groupe des Amis pour la défense de la Charte des Nations Unies a été créé en 2021 dans le but de préserver, promouvoir et défendre la primauté et la validité de la Charte des Nations Unies avec la participation de 19 pays, dont l'Iran. Les membres de ce groupe sont l'Algérie, l'Angola, la Biélorussie, la Bolivie, le Cambodge, la Chine, Cuba, la Corée du Nord, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, la République islamique d'Iran, la République démocratique populaire de Laos, le Nicaragua, la Palestine, la Russie, Saint-Vincent et les Grenadines, la Syrie, le Venezuela et le Zimbabwe. L'Iran a rejeté à plusieurs reprises et dans les termes les plus fermes les affirmations occidentales selon lesquelles la République islamique d'Iran aurait livré des armes et des drones à la Russie pour les utiliser contre l'Ukraine, affirmant que le pays coopère depuis longtemps avec Moscou en matière de défense et poursuit une résolution du conflit par le biais du dialogue et de la diplomatie. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a rejeté samedi la polémique médiatique occidentale sur le soutien présumé de l'Iran à la Russie dans la guerre en Ukraine, assurant que l'Iran ne serait pas indifférent s'il était prouvé que la Russie avait utilisé des drones iraniens dans le conflit. Les États-Unis ont annoncé vendredi un nouveau programme d'aide militaire d'une valeur de 400 millions de dollars à l'Ukraine dans le cadre de la contre-offensive de Kiev contre les forces russes. Le Pentagone a déclaré dans un communiqué que ce programme d'assistance militaire à l'Ukraine inclut un financement pour le transfert de missiles de défense aérienne et la modernisation des chars. Les États-Unis ont fourni plus de 18 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine depuis février. L'Agence américaine pour le développement international a fourni une aide humanitaire et au développement de 9,88 milliards de dollars à l'Ukraine. Les Palestiniens en Cisjordanie occupée pleurent la dernière victime des tirs israéliens. Des centaines de personnes ont pris part au cortège funèbre de Mus'ab Nafa, un adolescent tué près de Ramallah lors d'un raid nocturne des soldats israéliens. Le jeune Palestinien de 18 ans était l'un des deux Palestiniens abattus par les forces israéliennes. La deuxième personne a été blessée et elle est actuellement détenue par les Israéliens. Jeudi également, l'armée israélienne a tué 4 Palestiniens lors de raids en Cisjordanie. Le régime israélien a récemment mené une répression meurtrière dans la région. Depuis le début de l'année en cours, la violence israélienne a tué plus de 140 Palestiniens rien qu'en Cisjordanie. Le sommet des Nations Unies sur le climat, la COP21, s'ouvre en Égypte au milieu d'appels croissants pour que les pays riches indemnisent les nations les plus pauvres qui sont les plus vulnérables au changement climatique. Des délégués d'environ 200 pays participent à l'événement à Sharm el-Sheikh. Cette année, le sommet se concentrera sur 4 domaines de la crise climatique qui sont l'atténuation, l'adaptation, le financement et la collaboration. Le mois dernier, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que le monde faisait face à une catastrophe après qu'un rapport de l'ONU a mis en garde contre un réchauffement climatique de 2,8 degrés Celsius d'ici la fin du XXIe siècle. Le sommet de cette année se déroulera jusqu'au 18 novembre. Et enfin, un communiqué du ministère du Pétrole et des Énergies annonce que le Sénégal vient d'adhérer officiellement à l'Organisation des producteurs du pétrole africain lors de la 43e session du Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole de l'Afrique. Le Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africain a approuvé officiellement l'adhésion du Sénégal au sein de la dite organisation et ce, à la suite de la correspondance adressée par le gouvernement en date du 18 octobre dernier. Cette adhésion s'est faite après près de 2 ans de participation et de suivi de notre pays comme observateur, précise la source. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique, lance avec succès le transporteur suborbital à 3 étages, KM-100, à combustible solide. L'essai en vol suborbital du moteur du premier étage, RAFE, du lanceur à combustible solide, KM-100, s'est effectué avec succès samedi 5 novembre en présence du général de brigade Amirali Hajizadeh, commandant de la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique et d'un groupe d'officiers et de responsables des forces armées. Selon ce rapport, le lanceur à combustible solide KM-100 est un satellite qui, avec 3 étages de combustible solide, est capable de placer des satellites pesant 80 kg sur une orbite de 500 km de la surface de la Terre. Lors du test de ce samedi, le moteur du premier étage du satellite KM-100, qui est le moteur à combustible solide RAFE et qui a passé avec succès son test au sol en janvier dernier, a été soumis à un essai en vol suborbital. En franchissant cette étape, dans un proche avenir, le satellite Nahid de l'Organisation aérospatiale du ministère des Télécommunications et des Technologies de l'Information sera mis en orbite à l'aide du porte-satellite à 3 étages KM-100 du corps des gardiens de la révolution islamique. S'exprimant en marge de la cérémonie d'essai de cette grande réalisation qui s'est tenue à la base spatiale de lancement de satellites du corps des gardiens de la révolution islamique, le général de brigade Hajizadeh a déclaré « Les pays arrogants dirigés par le régime ignoble et terroriste des États-Unis se sont alignés contre les progrès de la grande nation iranienne et ne peuvent tolérer le fier succès de la République islamique d'Iran. Le travail acharné et les efforts des jeunes érudits de l'Iran islamique, qui, sous la directive du leader de la révolution islamique et du commandant en chef des forces armées, ont apporté ces grandes réalisations de notre pays, et ce, sous l'effet des sanctions les plus lourdes de l'histoire de l'humanité, ont la stratégie d'un Iran fort devant eux. Et sans aucun doute, nous continuerons avec force et rapidité notre mouvement vers l'avant pour conquérir les hauts sommets de la connaissance et atteindre les technologies nouvelles et de haut de gamme, a-t-il fait remarquer. Au cours des dernières années, l'Iran a réussi à fabriquer et à mettre dans l'espace de différents types de satellites, ainsi qu'à lancer divers porteurs de satellites. Fin juin, l'Iran a testé pour la 2e fois sa fusée porteuse de satellites à propergol hybride développé dans le pays, appelé Zuljana, à des fins de recherche prédéterminées.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat de jour. Nous sommes le samedi 5 novembre en direct depuis la capitale iranienne, Téhéran, et depuis le studio de Presse TV français. Hier, vendredi 4 novembre, marquait la journée nationale de la lutte contre l'hégémonie mondiale en Iran. des milliers de personnes, de citoyens iraniens, sont descendus dans les rues à Téhéran, mais également dans toutes les provinces du pays, afin d'exiger la fin de la gérance américaine et de l'hégémonie américaine dans le monde, mais notamment en Iran. En effet, durant ces dernières semaines, les États-Unis se sont interférés dans les affaires iraniennes et ont tenté de semer le chaos de partout, de plusieurs dossiers, de plusieurs affaires en Iran. Mais cette journée a marqué une fois de plus la haine de la population iranienne face aux ingérences américaines, occidentales et surtout de l'axe US-Israël en Iran. Alors, nous allons évoquer ce sujet avec nos deux invités. Cette guerre hybride américaine déclenchée contre l'Iran depuis des années, mais surtout accélérée depuis quelques semaines contre l'Iran. Mais avant de vous présenter nos invités et de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder un reportage préparé par mes collègues à ce sujet. On revient tout de suite après.
Le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Sayyid Ali Khamenei, rejette la théorie du pouvoir intouchable des États-Unis, affirmant que son pays est en fait très vulnérable. L'ayatollah Khamenei a fait ses remarques dans le cadre d'une rencontre avec des étudiants de tout le pays le mercredi 2 novembre, en amont de la Journée nationale des étudiants et de la Journée nationale de lutte contre l'arrogance mondiale qui sont célébrées le 4 novembre en Iran. Certaines personnes pensent que l'Amérique est une puissance intouchable, mais lorsque nous passons en revue les événements de cette journée 4 novembre, nous constatons le contraire et qu'elle est totalement vulnérable, a-t-il souligné en référence à la prise de contrôle de l'ambassade américaine à Téhéran, également connu en Iran sous le nom de nid d'espionnage. Moins d'un an après que la révolution islamique a renversé la dictature de la dynastie Pahlavi, soutenue par les États-Unis en 1979. Il a déclaré que le 4 novembre, le 13 Aban, calendrier iranien, est un jour historique qui ne sera pas oublié. Servez-vous de ces expériences. L'avenir vous appartient, a-t-il déclaré aux étudiants. L'ayatollah Sayyid Ali Khamenei a qualifié de mensonge l'affirmation des Américains selon laquelle la prise de contrôle de leur ambassade à Téhéran en 1979 est à l'origine des différends actuels entre l'Iran et les États-Unis. Le point de départ de cette querelle remonte au coup d'État orchestré par la CIA en 1953. Ils disent la raison pour laquelle les Américains se sont opposés au peuple iranien et la décision que vous avez prise à l'ambassade. Ce qui signifie que vous avez attaqué notre ambassade et un différend a éclaté entre nous, ce qui a conduit à un combat à une inimitié. Il ment, ce n'est pas le cas. Au contraire, a-t-il poursuivi, le début des différends entre l'Iran et les États-Unis remonte au 19 août 1953, lorsque les Américains ont organisé un coup d'État contre le gouvernement national du Premier ministre Mohammad Mossadegh. Le leader de la révolution islamique a évoqué les atrocités commises par les Américains contre la nation iranienne au cours des 70 dernières années, affirmant que la nation au grand dam des États-Unis a déjoué toutes leurs hostilités. Pour ce qui est de l'attentat terroriste perpétré à Shiraz la semaine dernière, dont la responsabilité a été revendiquée par Daesh, le leader de la révolution islamique a appelé à punir sévèrement les auteurs de ce crime. Selon l'ayatollah Khamenei, les signes d'un nouvel ordre mondial émergent dans le monde entier. Les jeunes doivent reconnaître le rôle de la position de l'Iran dans le nouvel ordre mondial.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Presse TV. Je vous présente nos deux invités. Arnaud Develay, maître Arnaud Develay, juriste international qui est avec nous depuis Damas. Imad Eddine, depuis Moscou, pardon. Imad Eddine Amrouni, analyste politique qui est avec nous depuis Paris, la France. Alors, je vous dis bonjour, messieurs. Maître Develet, je m'adresse d'abord à vous en ce qui concerne le rôle que jouent les États-Unis dans les dernières violentes émeutes en Iran. D'ailleurs, un communiqué des services de renseignement iraniens a été publié récemment, ou dans lequel on évoque clairement le rôle clair et direct des services de renseignement internationaux, notamment la CIA, donc américain, dans les émeutes en Iran et les déstabilisations de ces dernières semaines. Quelle analyse portez-vous sur cette situation, maître ?
Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et puis bonjour à votre invité. De toute évidence, c'est un secret de Polichinelle. J'allais dire évidemment que les États-Unis sont à la manœuvre.
Oui.
Leurs responsables ont toujours fait des déclarations dans ce sens, malgré le processus diplomatique qui a vu les États-Unis essayer de créer un accord sur le nucléaire en 2015. C'est vraiment presque l'exception. Dans un processus qui est assez constant depuis 43 ans maintenant, mais votre reportage le soulignait, qui remonte aussi depuis effectivement l'opération Ajax menée conjointement par les Britanniques et les Américains de 1953 qui a installé donc la dictature du Shah. C'est une accélération, je dirais une intensification qui, pour moi, semble plutôt trahir une certaine forme de fébrilité, parce qu'on a un petit peu un pot pourri de tout ce qui a été utilisé ces dernières années dans plusieurs pays d'ailleurs, entre l'invocation des droits de l'homme, entre l'utilisation d'acteurs non étatiques sous contrôle des agences de renseignement occidentales pour créer le chaos au sein du pays ciblé, et aussi... par rapport à tout ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux, où par exemple j'ai vu aujourd'hui un commentaire où, suite aux manifestations importantes d'hier à travers le pays, la personne laissait entendre que ces foules avaient été louées, alors, comme si on pouvait louer des centaines de milliers de personnes, enfin, ça ne tient pas debout, mais on s'aperçoit que leur rhétorique est toujours un peu, devient toujours de plus en plus galvaudé, et selon moi, c'est signe qu'ils ne savent plus trop quoi inventer pour arriver à leur fin, d'autant plus que, et on l'avait vu dans le dossier sur le nucléaire, le peuple iranien avait été très clair sur le sujet, qu'il ne tolérait absolument aucune interférence dans la destinée du pays, et que c'était donc à l'Iran et à l'Iran avant tout de décider de son chemin pour l'avenir. Et donc, dans ce sens-là, c'est presque quelque part incompréhensible qu'on assiste à des tentatives répétées dans le temps, de moins en moins espacées, alors que le peuple iranien est un peuple politiquement très éduqué et qui sait très bien quels sont les auteurs et quel sont le but de ces manœuvres.
Merci pour vos explications, maître. Reste en ligne. Je vous dis bonjour, Imadeddin Amrouni, analyste politique depuis Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans ce communiqué publié par les services de renseignement iraniens, on voit des dossiers classifiés, en fait, venus du service du renseignement américain. Donc, une déclaration qui met l'accent sur le rôle du régime mafieux américain et de ses alliés dans les récentes émeutes en présentant des faits classés en trois catégories. Pré-troubles, pendant les troubles, après les troubles. Donc ça montre à quel point les États-Unis sont en train de planifier une déstabilisation majeure en Iran, cette fois placée et basée sur la mort tragique de Mahsa Amini. Donc comment pourrait-on interpréter, à votre avis, ce rôle des services de renseignements américains, mais également israéliens, bien sûr, et ces planifications qui auraient dû prendre des mois, voire des années pour les États-Unis?
D'abord, je salue votre invité et tous les téléspectateurs. Vous savez, la date importante de la révolution islamique en 1979, la victoire de cette révolution, la mise en place de la République islamique, un autre système de gouvernance et la prise donc de l'ambassade américaine. Cette date, c'est une date très importante pour le mouvement révolutionnaire iranien et pour ce qui va venir après. Parce que les États-Unis, en tant que puissance, superpuissance de l'époque, maintenant, elle n'est plus la superpuissance. Et donc, cette puissance et superpuissance, elle a tout fait pour avorter la révolution islamique, pour avorter le système islamique, c'est-à-dire la nouvelle gouvernance du monde musulman, c'est-à-dire l'échantillon qui va, s'il va réussir, c'est-à-dire si la République islamique, ce système de gouvernance réussira, et donc il va avoir de l'influence autour de lui. Et le troisième point qui est important, c'est la position iranienne vis-à-vis de la Palestine, c'est-à-dire vis-à-vis de l'entité sioniste. Et donc, les États-Unis ont toujours œuvré pour déstabiliser le système politique iranien. Et donc, à 43 ans après, on voit que l'Iran, malgré les sanctions, malgré les embargos, malgré la guerre, c'est-à-dire les assassinats, les différents assassinats des grands chefs militaires ou bien des scientifiques iraniens à l'intérieur même de l'Iran, eh ben, cette République islamique iranienne, cette ligne révolutionnaire iranienne, musulmane, elle continue à progresser à l'intérieur même de l'Iran et à l'extérieur. Et on a vu l'importance donc, de la résistance palestinienne aujourd'hui, la résistance libanaise qui est devenue un acteur majeur stratégique dans la région, la résistance du peuple yéménite et la victoire du peuple irakien et aussi du peuple afghan. Donc, voyez-vous, l'Iran, les États-Unis ne voient pas que l'Iran ou le peuple iranien. L'Iran, aujourd'hui, c'est plus grand que la géographie iranienne. Et donc, les États-Unis, avec leurs alliés arabes et sionistes, ont mis tous les plans possibles pour déstabiliser l'union nationale iranienne et l'union musulmane autour de l'Iran. Et donc, depuis à peu près, si on parle de la dernière déstabilisation qu'on est en train d'assister, elle était planifiée il y a 5 ans, oui. C'est-à-dire à l'ère de avant même de l'ère de M. Trump, et avec M. Trump, ils ont eu beaucoup de réunions avec l'opposition iranienne ici à Paris, à Bruxelles, aux États-Unis, en Hollande, en Allemagne, et bien sûr aux États-Unis, et ils ont préparé toute une planification bien orchestré à l'intérieur et à l'extérieur, avec les oppositions armées comme certains Kurdes, comme certains sunnites iraniens, mais aussi avec des artistes iraniens, avec des sportifs iraniens, avec des gens, entre parenthèses, de la gauche iranienne. Oui. Et donc, ils ont planifié tout ce mouvement à l'intérieur même et à l'extérieur pour aboutir à déstabiliser le gouvernement de M. Raisi. Parce que lorsque M. Raisi est arrivé au pouvoir, la ligne révolutionnaire, elle est revenue donc, aux manœuvres à l'intérieur de l'Iran. Et donc, ce fait-là de retour de la ligne révolutionnaire a accéléré le processus de la déstabilisation. Donc, l'Iran veut affaiblir le gouvernement de M. Raisi, veut montrer que M. Raisi et son groupe révolutionnaire ne pourront pas réussir à trouver des solutions au peuple iranien, c'est-à-dire des solutions économiques, culturelles et politiques. Et donc, l'accélération de la déstabilisation va se continuer à l'intérieur même de l'Iran, avec peut-être des cibles pour assassiner certaines personnalités, mais aussi déstabiliser socialement sur les frontières iraniennes et même dans les grandes villes comme Shiraz, comme Isfahan et comme Téhéran. Et aussi la déstabilisation à l'extérieur de l'Iran, c'est-à-dire la pression politique et la pression de communication par les réseaux sociaux sur les décideurs iraniens de l'intérieur pour que les décideurs à l'intérieur de l'Iran réagissent peut-être agressivement contre certaines oppositions. Et donc ça complique, si vous voulez, à l'intérieur même de l'Iran. Mais on a vu hier donc, les millions d'Iraniens qui sont descendus dans la rue pour envoyer un grand message aux États-Unis, mais aussi aux Iraniens de l'intérieur qui sont alliés aux Américains.
Merci pour vos explications, M. Ambruni. Restez en ligne. Maître de Velay, l'intégrité territoriale iranienne, en fait, et atteindre cette intégrité territoriale est l'un des objectifs principaux de l'axe US-Israël, un point sur lequel cet axe est bien appuyé durant ces dernières semaines, notamment. À votre avis, dans un premier temps, est-ce qu'ils réussiront à atteindre cette intégrité, mais également jusqu'où se poursuivront ces tentatives en vain?
Alors, écoutez, la dernière partie de votre question, je n'ai pas entendu.
Oui, alors je vous demandais d'abord pourquoi cette atteinte à l'intégrité territoriale iranienne et est-ce que ces tentatives en vain vont finalement avoir un résultat concret pour l'axe US-OTAN et jusqu'où se poursuivront ces tentatives?
Bah, écoutez, moi je pense que oui, les tentatives vont se poursuivre. Maintenant, ce serait faire fi des capacités militaires et de renseignement de la République islamique d'Iran. On a quand même eu des démonstrations répétées au fil des dernières années de la force de militaire, technologique. L'Iran a fait école dans beaucoup de pays qui cherchent à s'émanciper. Votre invité le soulignait, c'est certainement une des raisons pour lesquelles les États-Unis s'acharnent, parce qu'ils se disent que s'ils peuvent quelque part opérer un changement de régime, comme ils l'appellent souvent en Iran, cela leur permettra de pouvoir contrôler après ce que eux perçoivent comme des foyers d'instabilité à travers la région, mais qui sont en fait, comme encore une fois votre invité le soulignait, une école de révolutionnaires et qui ça marche et ça crée un précédent. Donc je pense que oui, ils vont essayer par toutes les manières de déstabiliser, que ce soit plutôt de l'intérieur avec en appuyant sur les thématiques sociétales, en essayant de créer artificiellement des divisions au sein de la population iranienne. Mais encore une fois, la population iranienne, politiquement, est très sophistiquée. Ils ont parfaitement compris qui est à la manœuvre et quels sont les moyens déployés pour ce faire. Et pour ce qui est de l'intégrité territoriale iranienne, moi, je pense que c'est un... Je n'y crois pas du tout. Franchement... Le golfe Persique, ce n'est même pas la peine d'y penser parce que les bases américaines seraient les premières à en subir les conséquences. Le détroit d'Ormuz, ça avait été évoqué, c'est pratiquement 10% des flots qui passent à l'échelle mondiale qui passent par ce détroit. Ça créerait donc un effet boomerang à côté duquel, je pense, les sanctions... européenne et donc américaine et surtout européenne à l'encontre de la Russie et leur effet boomerang paraîtrait comme une promenade dans le parc comparé à ce qui se passerait si l'Iran bloquait donc enfin, l'Iran a les moyens en tout cas d'infliger inversement et proportionnellement des dégâts tellement considérables sur non seulement les mains qui seraient tentées de violer son intégrité territoriale, mais aussi l'économie de ces puissances d'agression serait mise à mal dans un contexte où je pense que les régimes derrière ces tentatives seraient eux-mêmes menacés par leur propre population qui commencerait à se dire mais qu'est-ce qu'on est en train de faire et en quoi sommes-nous concernés par le fait de dépenser des sommes d'argent pour déstabiliser des pays alors que nous avons tellement de choses à faire chez nous. Et il semblerait que nos intérêts ne soient pas prioritaires pour les gens qui sont censés nous représenter et nous gouverner. Donc, je pense qu'on va effectivement assister plutôt à de la sous-traitance, comme on a pu le voir ces dernières années à plusieurs niveaux, en utilisant aussi la plateforme du Kurdistan irakien pour lancer peut-être des opérations ponctuelles. Mais encore une fois, le renseignement iranien est extrêmement... compétents et dans cette configuration, je pense qu'ils sont capables d'anticiper, de tuer dans l'œuf toute tentative. C'est d'ailleurs l'approche à privilégier, c'est d'anticiper, d'être à l'écoute, d'obtenir les renseignements de telle sorte que ces opérations ne puissent pas avoir l'effet escompté. Maintenant, on a aussi la situation avec l'Azerbaïdjan, où il semblerait que l'Azerbaïdjan soit le nouveau terrain de jeu des services occidentaux et sionistes, avec des prises de contact, des collaborations, l'établissement de bases d'écoute. Et probablement, partant de là, il va y avoir certainement des tentatives, des rampes de lancement mises en place pour essayer de déstabiliser l'Iran sur sa frontière nord. Mais bon, encore une fois, je pense que cela reflète plus une forme de d'impatience, de désarroi et de fébrilité de la part de la triplette Londres, Tel Aviv, Washington.
Merci pour vos explications, maître. Monsieur Amrouni, à votre avis, qu'est-ce qui a permis au peuple iranien de résister pendant toutes ces 40 dernières années face aux ingérences et aux tentatives de déstabilisation venant de part et d'autre, mais notamment surtout durant ces dernières semaines?
En fait, cette solidarité, cette chaîne de solidarité que le peuple iranien a créée depuis les années 60 face aux dictatures, à la dictature du Shah, à la tête de cette chaîne de solidarité, il y avait le symbole, le grand symbole, c'est-à-dire l'imam Khomeini, paix à son âme. Et donc, c'est une reconnaissance dans la culture nationale iranienne et aussi la spiritualité iranienne. Et malheureusement, l'analyse de certains occidentaux, certains Américains, n'a pas percé cette chaîne de solidarité intacte. Mmh. C'est-à-dire, elle est restée intacte malgré toutes les guerres, malgré tous les problèmes, malgré toutes les sanctions économiques. La chaîne de solidarité n'a jamais brisé. Pourquoi ? Parce qu'elle représente la culture iranienne. Elle représente l'Iran historique et l'Iran moderne. Et l'Iran moderne, il prend ses racines dans l'Iran historique. Et donc, les leaders de ce peuple, ils viennent du peuple. C'est-à-dire, ils ne viennent pas de la classe bourgeoise. Et on voit que même cette bourgeoisie iranienne qui a profité du régime, on voit beaucoup de corruption en Iran. Parmi beaucoup de gouvernements avant M. Raisi, et il y a la constitution de certaines bourgeoisies à cause de l'embargo, à cause des sanctions qui ont profité. Mais le peuple iranien, il est resté sous la guidance de leurs leaders populaires. Parce que les vrais leaders de l'Iran, ils viennent du peuple, comme la figure importante du M. Ali Khamenei, paix à son âme, qu'Allah le garde. Donc cette symbolique dans la représentation, c'est-à-dire le leader, et c'est ça qu'ils cherchent à déstabiliser, en fait, les Occidentaux. C'est cette chaîne populaire de solidarité à leur tête, ce qu'on appelle Wali al-Faqih. C'est ce système politique génial que l'imam Khomeini a apporté pour garder la solidarité populaire. Car s'il n'y avait pas ce système politique, eh ben, certainement les Américains vont réussir à déstabiliser l'Iran. Donc le point le plus important dans le système politique iranien, c'est Wilayat al-Faqih. C'est Wilayat al-Faqih, elle appartient au peuple. Elle n'appartient pas au régime. Et c'est ça que les Américains n'ont pas compris. C'est le peuple qui soutient le gouvernement, ce n'est pas le gouvernement qui soutient le peuple.
Oui.
Et donc, à chaque fois même que le gouvernement s'affaiblit, eh bien, on voit que le peuple réagit. Comme l'a bien dit votre invité de Moscou, c'est-à-dire qu'il y a un éveil politique naturel, le peuple iranien. Malgré toutes ces différences d'objectivité, c'est-à-dire il y a des centristes, il y a on peut dire la gauche, la droite, les conservateurs, les réformateurs, mais le peuple, lui, il est solidaire avec son leader. Et c'est cette chaîne-là qui a sauvé l'Iran d'aujourd'hui.
Merci infiniment. Merci à Imadeddin Amrouni, analyste politique, maître Arnaud Develet, juriste international, d'avoir été avec nous pour ce débat. Merci également à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Je vous propose de regarder nos informations et nos émissions sur notre site web french.presse.tv.ir. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis au revoir et à très vite.
Afrique économique.
Le Niger lance une grande compétition pour les fintech et startups nationales et internationales. Cette initiative est organisée par le projet Village Intelligence pour la croissance rurale et l'inclusion numérique. Les lauréats du concours bénéficieront de subventions allant de 5 millions jusqu'à 145 millions de francs CFA et d'un appui technique. La compétition dénommée Startup et FinTech Challenge a pour objectif de promouvoir la création de nouveaux produits numériques visant à catalyser l'inclusion financière numérique au Niger. Le lancement de la compétition s'est déroulé le samedi 22 octobre 2022 à Niamey. La compétition concernera trois catégories de FinTech et Startup, notamment Startup ou FinTech en amorçage, c'est-à-dire qui n'ont pas encore de prototype, ou à un prototype en développement. Startup ou fintech en phase de développement, qui sont en phase de développement d'un produit ou service permettant de catalyser l'inclusion financière au Niger, où le produit est déjà développé et en exercice. Startup ou fintech mature, qui ont un produit-service qui fonctionne déjà, opérant au Niger ou comptant opérer au Niger et ils souhaitent avoir une subvention pour accélérer leur croissance. La sélection des potentiels bénéficiaires des subventions se fera par un jury composé de membres nationaux et internationaux sur la base d'un plan d'affaires, du niveau d'innovation et d'adéquation de la solution avec les réalités nigériennes. La sélection sera faite en deux étapes. Réponse à l'appel à candidature par soumission d'un dossier en ligne, présentation de la solution proposée dans le cadre d'une réunion virtuelle. Les startups et fintech lauréats de ce concours auront accès à des subventions dont un appui technique et financier allant de 5 millions jusqu'à 145 millions de francs CFA. La Tanzanie et la Chine signent 15 accords lors de la visite de la présidente Samia Suluhu à Pékin. Les accords concernent notamment des projets d'infrastructure, l'annulation d'une partie de la dette et l'application d'une nouvelle politique tarifaire sur les importations chinoises en provenance de la Tanzanie. La Tanzanie et la Chine ont signé 15 accords de coopération économique au deuxième jour de la visite d'État qu'effectue la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan à Pékin. Signé lors d'une cérémonie présidée par Madame Hassan et son homologue chinoise Xi Jinping, ces accords concernent notamment des projets d'infrastructure, une nouvelle politique tarifaire sur les importations en provenance de la Tanzanie et l'annulation d'une partie de la dette de Dodoma envers Pékin. Selon South China Morning Post, le quotidien chinois, l'un des plus importants accords concerne la rénovation du chemin de fer Tanzanie-Zambie, Tanzania-Zambia Railways, Tazara. Le coût de rénovation de cette ligne ferroviaire de 1860 km qui relie le port tanzanien de Dar es Salaam à la province minière zambienne de Copper Belt n'a pas été dévoilé. En août dernier, l'ambassade de Chine en Zambie avait annoncé que la société d'État China Civil Engineering Construction Corporation a été retenue pour réaliser l'étude de faisabilité de la rénovation du chemin de fer construit dans les années 70 par la Chine. D'autres accords portent sur un prêt de 56,72 millions d'euros à des conditions concessionnelles destinées à financer la construction du deuxième terminal de l'aéroport international de Zanzibar et une subvention de 13,6 millions d'euros en faveur de l'État tanzanien. La Chine et la Tanzanie ont également signé un accord prévoyant la suppression des droits de douane sur 98% des produits tanzaniens importés par la Chine. Un communiqué publié par la présidence tanzanienne fait par ailleurs état de l'annulation par l'Empire du Milieu de 31,4 milliards de shillings tanzaniens de dettes. En 2021, Dakar et Alger s'étaient accordés pour collaborer dans le domaine de la formation axée sur le pétrole et gaz. La société publique en charge des hydrocarbures en Algérie, Sonatrach, a paraffé mercredi 2 novembre un protocole d'accord avec la holding Société des pétroles du Sénégal pour explorer les perspectives d'une collaboration conjointe dans le secteur pétro-gazier. L'entente a été signée en marge d'une visite des autorités sénégalaises, invitées à prendre part à la 31e édition du sommet de la Ligue arabe tenu à Alger du 1er au 2 novembre. Elle intervient en prélude à l'exploitation des ressources pétrolières et gazières du Sénégal annoncée pour 2023. En perspective du développement de nos ressources pétrolières et gazières prévues à partir de l'année prochaine, nous pensons que Sonatrach est une excellente référence pour développer nos capacités et compétences afin de relever les défis liés à l'exploitation future du pétrole et du gaz, a déclaré Thiemo Seydou, DG de Petrosen ENP, filiale de la Société du pétrole du Sénégal. Dans cette optique, les parties prenantes envisagent l'organisation, dans les semaines à venir, de sessions de travail visant à identifier les possibilités d'investissement dont elles pourraient réciproquement bénéficier dans le segment amont et aval. Une occasion pour l'entreprise algérienne d'étendre son influence en Afrique subsaharienne, conformément à son ambition de se positionner comme un acteur incontournable de la géopolitique de l'énergie en Afrique et en Europe. Géant minier du continent, l'Afrique du Sud a perdu ces dernières années un peu de son prestige dans le secteur en raison de mines vieillissantes et d'un sous-financement de l'exploration. La recherche scientifique est l'un des moyens qui peuvent améliorer la situation. En Afrique du Sud, le gouvernement a ouvert cette semaine 4 centres de recherche dans les universités de Pretoria, Johannesburg, Witwatersrand, rapporte Mining Weekly. Dénommés Saint-Merdi, ils seront dédiés à la recherche, au développement et à l'innovation sur l'extraction minière dans le pays. L'idée derrière ce projet piloté par le Mandela Mining Precinct est de proposer des solutions locales aux problèmes que rencontre l'industrie minière sud-africaine, notamment en ce qui concerne la modernisation et la productivité des mines, ainsi que la durabilité de l'exploitation minière et la sécurité des employés. Cela permettra, in fine, d'avoir des mines sûres dotées de durée de vie plus longue et produisant plus de richesses. Pour Joanne Leroux, directeur du MMP, cité par Mining Weekly, la création de ces centres est devenue une nécessité, car les domaines visés souffrent d'une insuffisance de chercheurs en Afrique du Sud, ce qui a de fait réduit la recherche scientifique qui touche pourtant de près le quotidien des Sud-Africains. Le pays est en effet un géant minier sur le continent et à l'échelle mondiale, avec une contribution d'environ 9% du secteur au PIB en 2021. La même année, l'industrie a employé directement environ 462 000 personnes, soit près de 5% des emplois formels du pays hors secteur agricole, d'après la Chambre des mines. Il faut noter que chaque centre accueillera à chaque cycle de 3 ans un étudiant postdoctorant, un étudiant de doctorat et jusqu'à 4 étudiants en master. Le groupe Dangote anime le marché financier et des capitaux du Nigeria avec une progression record sur la bourse Lagos et un emprunt sur titre de près de 256 millions de dollars. Autant d'initiatives qui lui permettent de tester sa perception auprès des investisseurs. Le groupe Dangote a repris le leadership sur la bourse de Lagos face à MTN Nigeria avec sa filiale Dangote Cement, redevenue mercredi 2 novembre l'entreprise la plus valorisée de ce marché financier. Une perte de valeur de 2,2% jeudi 3 novembre n'a pas été suffisante pour effacer la progression de 8,8% réalisée par le groupe cimentier mardi 1er novembre. Sa capitalisation boursière est ainsi portée à 9,2 millions de dollars contre juste 9 milliards de dollars pour la filiale du groupe sud-africain de télécommunications. Aucune information particulière n'a été rendue publique ce jour-là, mais on sait que le groupe industriel fondé par le milliardaire nigérian Aliko Dangote a tenu une conférence avec ses investisseurs pour discuter de ses performances du troisième trimestre 2022, mais il faudrait attendre pour savoir s'il y a désormais un engagement soutenu des investisseurs. Il y a quelques jours encore, MTN Nigeria avait repris le leadership sur le Nigerian Stock Exchange en termes de valorisation boursière, de rentabilité et de cash disponible. pendant de nombreuses années, Dan Goetzement était le leader incontesté de ce marché financier et l'arrivée de MTN a installé une certaine compétition, notamment pour des fonds indiciels traquant les performances de sociétés cotées dans les pays émergents. Le groupe Dan Goet aura une autre occasion de tester l'intérêt des investisseurs. Il sollicite le marché nigérian, des capitaux, dettes sur émission de titres pour un montant total de 112,4 milliards de nairas. La ressource devrait lui permettre de poursuivre avec la finalisation des travaux de lancement de sa raffinerie.